Pourrions lire un premier verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Verset 27. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 21. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Encore une expression dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et au milieu du verset 14, il dit aux Corinthiens, « Je ne cherche pas vos biens, mais vous-même. Je ne cherche pas vos biens, mais vous-même. » Pour illustrer ces versets, pourrions lire dans le Deutéronome. Chapitre 22. Ce sont bien sûr des instructions de la loi de l'Éternel pour son peuple, Israël. Et nous verrons, Dieu voulant, une application très pratique en ce qui nous concerne. Deutéronome 22. Si tu vois le bœuf de ton frère ou son mouton égaré, tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison, et elle sera chez toi jusqu'à ce que ton frère la cherche, alors tu la lui rendras. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras pas te cacher. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les relever avec lui. Souvent, nous avons une idée de la loi de l'Éternel, de la loi mosaïque que l'Éternel avait donnée à son peuple Israël, une idée peut-être assez particulière, quelque chose de difficile, quelque chose de difficile à accomplir, et réellement c'était quelque chose de difficile à accomplir. Mais en lisant de tels passages, nous allons comprendre que Dieu voulait imprégner son peuple de bienveillance, d'amour, de pureté, de justice entre les Israélites. Et nous allons voir à travers cet exemple de Deutéronome 22 que tout Israélite devait être bienveillant, plein d'amour à l'égard de son frère. Et si nous lisons les premiers versets, nous voyons que un Israélite, un frère, eh bien, avait son mouton égaré. Et un peu plus loin, nous voyons qu'il y avait un âne égaré. Il pouvait même avoir perdu son vêtement égaré. Et tout objet perdu que cet Israélite avait oublié quelque part. Eh bien, si cet Israélite rencontrait donc le bœuf de son frère, le mouton de son frère, l'âne de son frère, le vêtement de son frère, eh bien, il devait toutes affaires cessantes ramener ce que son frère avait perdu, le lui ramener. Hein, tu ne manqueras pas. Et nous voyons cette expression encore, tu ne pourras pas te cacher. Alors, en pratique, qu'est-ce que cela signifie ? En particulier, nous voyons que, au fond, Dieu nous invite à nous occuper de ce qui appartient à notre frère et que ce frère a perdu, c'est-à-dire de lui venir en aide et de prendre soin de ce que notre frère a perdu. Et nous savons que quand notre frère ou notre sœur est en difficulté, eh bien, c'est très facile pour nous de détourner notre regard, c'est très facile pour nous de prendre un chemin, justement, en négligeant l'intérêt que nous pourrions avoir pour notre frère et pour notre sœur. Mais nous voyons que l'Éternel, ici, ne laisse aucune échappatoire à son peuple. C'est-à-dire que si un Israélite avait perdu un bœuf, avait perdu un mouton, avait perdu un âne, avait perdu un vêtement, eh bien, toute affaire cessante, eh bien, il était dans l'obligation morale, par amour pour son frère, de lui ramener ce qu'il avait perdu. Est-ce que nous sommes prêts quand notre frère ou notre sœur est en difficulté, à cesser toute activité, toute affaire cessante, m'occuper et donner des soins à mon frère qui est dans ses difficultés. Or, le mouton, si un juif perdait un mouton, il est parlé dans la Genèse, en Genèse 22 de Bélier, eh bien, si l'Israélite avait perdu son mouton, eh bien, il lui était impossible de célébrer la Pâque et d'apporter une offrande à l'Éternel. Nous rencontrons quelquefois des frères et des sœurs qui s'éloignent et qui ne viennent pas avec nous le dimanche matin, la réunion de culte autour de la personne du Seigneur, célébrer justement ce repas que le Seigneur nous a préparé pour nous souvenir de lui et de sa mort. Est-ce que, toute affaire cessante, est-ce que nous nous cachons, est-ce que nous sommes prêts à laisser toute activité, à laisser nos occupations, nos propres intérêts, pour nous occuper de notre frère et de notre sœur qui est en difficulté et qui n'a pas pu se rendre au lieu du rassemblement le dimanche matin avec nous. Ou bien est-ce que nous passons outre? Est-ce que nous continuons tranquillement notre cheminement dans l'indifférence? Et nous voyons l'enseignement de l'Éternel pour son peuple, pour les Israélites. Hein, si le mouton pour le sacrifice était égaré, eh bien, il n'y avait pas d'échappatoire. L'Israélite qui avait découvert que ce mouton n'était plus dans les mains de son frère israélite, eh bien, il devait tout de suite aller lui ramener pour qu'il puisse sacrifier lui aussi et célébrer la Pâque avec son peuple. Et c'était simplement lui manifester de l'amour, c'était simplement lui manifester de la bienveillance. Est-ce que nous manifestons de l'amour entre nous? Est-ce que nous avons cette bienveillance les uns vis-à-vis des autres? Il n'est absolument pas parlé pourquoi le mouton ou le bœuf s'était égaré. L'Éternel ne donne pas cette instruction, il ne donne pas pourquoi. Mais peu importe la raison, eh bien, c'était tout à fait, il fallait laisser tout à faire en cours et ne pas se cacher et aller rapporter ce mouton pour le sacrifice à celui qui l'avait égaré. Un Israélite, il nous est dit qu'il pouvait aussi égarer un bœuf. C'est-à-dire que, bien sûr, les bœufs étaient utilisés pour labourer et aussi pour fouler le grain. Quelques versets qui nous le disent dans le Deutéronome. Et donc le bœuf était présent pour la nourriture de l'Israélite et en particulier pour fouler le grain. Et si le bœuf s'était égaré, eh bien, celui qui avait égaré cet animal, eh bien, il risquait d'être sous-alimenté. Il était en danger d'être sous-alimenté. Est-ce que nous ne rencontrons pas quelquefois des frères et des sœurs qui sont aussi sous-alimentés, sans vouloir juger pourquoi, absolument? Est-ce que nous n'avons pas à cœur de les aider à retrouver la nourriture spirituelle que mon frère et ma sœur ont besoin? Est-ce que nous avons à cœur, quand nous voyons quelquefois dans des entretiens, dans des conversations, quand nous nous rendons compte que peut-être il n'y a pas cette croissance spirituelle que nous aimerions, et le danger, bien sûr, si nous ne nous sommes pas nourris par la parole de Dieu, si nous ne sommes pas occupés de ces choses, eh bien, nous avons le danger d'être sous-alimentés. Et si nous sommes sous-alimentés, eh bien, nous allons perdre des forces. Et est-ce que nous avons à cœur de nous occuper et d'aider notre frère et notre sœur en lui apportant cette nourriture qui lui est nécessaire? Et l'expression de Deutéronome, c'est « tu ne pourras pas te cacher ». Hein, c'est toute affaire cessante. Un frère, une sœur qui ne vient plus au rassemblement, eh bien, ce devrait être toute affaire cessante que nous devrions à cœur et prendre soin avec amour et bienveillance de ce frère et de cette sœur. Si nous voyons un frère et une sœur, qui peuvent être jeunes ou moins jeunes, sous-alimentés, est-ce que nous avons à cœur, par des visites, par des entretiens, d'aider, d'apporter cette aide spirituelle? Est-ce que nous avons à cœur nos frères et nos sœurs, ou bien est-ce que nous sommes indifférents? Est-ce que nous avons nos cœurs qui sont fermés? Un frère aussi, un juif, un israélite, nous voyons qu'il pouvait perdre son âne aussi. Alors, quelle est la signification spirituelle de perdre son âne? Un âne, ça sert à quoi? À la campagne. Un âne, ça porte des fardeaux. Hein? Un animal batté est utilisé pour transporter des charges. Et est-ce que nous ne rencontrons pas spirituellement des frères et des sœurs qui ont des charges trop lourdes et qui auraient besoin d'être soulagés, qui auraient besoin qu'on porte aussi, qu'on les aide à porter quelque peu les charges? Et perdre son âne, la signification spirituelle pour le Nouveau Testament, c'est que nous devons porter les charges les uns des autres. N'y a-t-il pas parmi nous des frères et des sœurs qui sont chargés? Peut-être que nous ne le dirons pas, mais si nous vivons proches les uns des autres, nous verrons qu'il y a des frères et des sœurs qui sont chargés et qui ont besoin de notre aide, de notre bienveillance, de notre amour. On peut lire dans l'Épître aux Galates cette exhortation de l'apôtre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2 porter les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Et la fin du verset 4, il nous est dit, car chacun portera son propre fardeau. Dans le grec, il y a deux mots différents pour les charges et le fardeau. En français, c'est presque similaire, porter une charge ou porter un fardeau. C'est pratiquement la même chose. Mais la parole de Dieu, en grec, nous voyons qu'il y a deux mots différents. Le deuxième mot, c'est « chacun portera son propre fardeau », c'est-à-dire le fardeau, ici, c'est le paquetage du soldat. Et nous savons que l'apôtre Paul, il y avait les Romains qui étaient présents en Israël, et il avait observé certainement, et nous le voyons à travers différents exemples dans la parole de Dieu, qu'il avait bien observé ce que faisaient les soldats en particulier, les centurions, etc. Et chacun portera son propre fardeau, c'est le bagage du soldat, c'est le paquetage du soldat, c'est-à-dire le soldat avec un paquetage sur les épaules, sur le dos, qui était bien rangé, comme chaque soldat romain. Et dans la vie chrétienne, nous avons tous un paquetage. Chacun, comme dit l'apôtre, portera son propre fardeau. Donc nous avons dans la vie chrétienne des fardeaux ou des charges à porter. Mais c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que tout croyant va rencontrer dans sa vie sur cette terre. Donc ça, c'est un premier mot grec. Le deuxième mot en grec, c'est « porter les charges les uns des autres ». Et la signification de « porter les charges les uns des autres », c'est un fardeau accablant. C'est un fardeau oppressant. Et porter les charges les uns des autres, il y a des croyants, des frères et des sœurs qui portent des fardeaux accablants et oppressants et qui sont à la limite insupportables. Eh bien, ce que nous dit l'apôtre Paul, eh bien, il faut les aider, porter les charges les uns des autres et ainsi accomplir la loi du Christ. Eh bien, sinon, notre frère ou notre sœur a un fardeau trop important pour ses propres forces. Eh bien, il y a l'entraide entre croyants, entre frères et sœurs. Il y a cette bienveillance, il y a cet amour. Et nous voyons que, à travers cet exemple du Deutéronome chapitre 22, nous voyons que Dieu ne veut pas que nous soyons des égoïstes. Il ne veut pas que nous soyons des indifférents, des égoïstes, c'est-à-dire ne penser qu'à nous-mêmes et ne pas penser aux autres. Et nous savons que notre cœur naturel est un cœur égoïste. Mais le danger aussi, et le danger actuel avec l'individualisme qui nous caractérise tous, eh bien, il faut se tenir devant Dieu et réaliser que nous avons besoin de ne plus être caractérisés par cet égoïsme intrinsèque qui est en nous. Est-ce que nous avons à cœur de porter les charges des uns des autres? Si mon frère a une charge trop lourde, est-ce que nous sommes prêts à aller vers lui pour l'aider à porter cette charge? Si tu vois, l'âne de ton frère, tu ne te cacheras pas sur le chemin, tu ne te cacheras pas. Nous sommes souvent prompts à critiquer, nous sommes prompts à, quelquefois même, nous pouvons avoir des propos malveillants les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que nous avons à cœur le bien de nos frères? Est-ce que nous avons à cœur le bien spirituel de nos frères? Est-ce que nous avons à cœur que notre frère et notre sœur qui s'éloignent, eh bien, d'aller le chercher, de le gagner avec des moyens, avec les moyens que Dieu donne, c'est-à-dire cet amour fruit de l'esprit, cette bienveillance, cette patience? Est-ce que nous avons à cœur de laisser tout tomber, toute affaire cessante, et de nous occuper de notre frère et de notre sœur, pour qu'ils puissent célébrer avec nous la fête? Il nous est dit aussi qu'un Israélite pouvait même avoir perdu tout vêtement, son vêtement. Quelqu'un qui n'a plus de vêtements, c'est quelqu'un qui est dans la misère, dans le dénuement, dans une pauvreté extrême. Et dans les Galates aussi, au chapitre 2, l'apôtre exhortait les Galates à se souvenir des pauvres. Eh bien, que nos cœurs ne soient pas fermés, mais nos cœurs soient ouverts à la misère. Est-ce que avoir un cœur bienveillant, un cœur aimant? Alors, avons lu dans Luc 22, cette expression dans la bouche du Seigneur Jésus: or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le Seigneur, il n'était pas au milieu de ses disciples pour être servi, mais il était au milieu de ses disciples et dans ce monde, sur cette terre, comme celui qui sert. Et dans le passage que nous n'avons pas lu, et la signification, c'est que personne n'est aussi petit que celui qui pense être grand. Si nous avons une haute pensée de nous-mêmes, eh bien, c'est que nous sommes petits. Et nous voyons que le Seigneur nous indique, en contraste avec ce qui se passe dans le monde, puisque les disciples, il y avait une contestation entre eux pour savoir quel serait le plus grand ou estimé le plus grand. Et nous les voyons qui se vantaient même en la présence du Seigneur. Si nous pensons un peu à la scène, on voit les disciples, le Seigneur est près d'eux. Eh bien, il y avait une contestation devant le Seigneur, en sa présence, et ils discutaient pour savoir quel serait le plus grand. Si nous avons la conscience de la présence du Seigneur, on ne cherche pas à être le plus grand. Dans la présence du Seigneur, Nous sommes, nous, si nous la réalisons, nous sommes petits. Nous sommes petits à nos propres yeux. Nous sommes humbles. Et nous voyons que le Seigneur nous indique une façon de vivre qui est en contraste complet avec ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, on cherche à être le plus grand. On veut avoir de l'estime les uns par rapport aux autres. Eh bien, le Seigneur, il nous donne comme exemple, « Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Et celui qui s'abaisse le plus bas dans le service. Et c'est ce que Christ a été. Nous parlons très souvent de son anéantissement, de son abaissement. Mais le corollaire, c'est que nous disons volontiers que Christ est notre exemple. Est-ce que nous sommes caractérisés par un abaissement, avec ce désir d'être, de servir les frères et les sœurs, avec amour, avec bienveillance, porter leurs charges, les nourrir s'ils sont sous-alimentés? Est-ce que nous avons à cœur de suivre le Seigneur aussi comme exemple dans son abaissement? Parlons souvent que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Bien sûr, c'est vrai. Et que dans le ciel aussi, nous serons des rois et des sacrificateurs, seront autour de l'agneau qui se tient comme immolé dans le ciel. Mais sur la terre, aujourd'hui, est-ce que nous avons comme exemple le Seigneur quand il nous dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Non pas être le plus grand parmi nous, mais celui qui sert. La vraie grandeur aux yeux de Dieu et aux yeux du Seigneur, c'est de servir. Avoir à cœur ce service, le service pour les saints, avoir à cœur les âmes, gagner les âmes, s'occuper des âmes, chercher le bien de nos frères et de nos sœurs. Est-ce que nous sommes des individualistes, chacun dans notre coin et on se retrouve simplement le dimanche? Ou bien est-ce que nous avons une vie d'assemblée ensemble pendant la semaine aussi? Est-ce que pendant la semaine, les liens se maintiennent étroits? Ou bien ces liens s'effilochent et puis ils sont de moins en moins importants? Le Seigneur, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Est-ce que nous prenons le Seigneur Jésus aussi là comme exemple, hein, et comprendre que la vraie grandeur, c'est de servir? Alors nous avons lu dans les Philippiens ce verset. Et chaque fois que nous lisons un tel verset, est-ce que ça ne nous juge pas? Est-ce que ça ne nous parle pas au cœur et à la conscience? Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Alors, nous allons dire, oui, nous désirons aussi chercher les intérêts de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi les intérêts de Jésus-Christ? Bien, le Seigneur, c'est le divin berger. Et nous sommes le troupeau de Dieu. Eh bien, les intérêts de Jésus-Christ, si j'ai à cœur les intérêts de Jésus-Christ, j'ai à cœur le troupeau de Dieu. J'ai à cœur le bien des âmes. J'ai à cœur chaque brebis. Il y a toujours le danger d'aimer plus ceux qui nous aiment. Et puis, on aime beaucoup moins ceux qui ne nous aiment pas. C'est un grand danger, au fond, de faire même une sélection dans nos relations fraternelles. Hein, c'est-à-dire, bon, certains, ils ne nous aiment pas trop. Ben, nous, on ne va pas les aimer non plus. Mais bon, le Seigneur, il était là comme celui qui sert au milieu des disciples. Et il est venu. Eh bien, ne faisons pas l'erreur de nous mettre tous au même niveau, mais pas le bon niveau, mais ayons à cœur les âmes. Hein. Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Si nous lisons la partie de ce chapitre de Philippiens, voyons que l'apôtre y donne trois exemples de personnes qui avaient à cœur les intérêts de Jésus-Christ. C'était lui-même d'abord, l'apôtre Paul, après c'est Timothée, et après c'était Épaphrodite. Si on lit attentivement le passage, nous voyons qu'il nous donne trois exemples de frères qui avaient à cœur le bien des âmes, qui avaient à cœur, au fond, à travers ces âmes, les intérêts de Jésus-Christ. Parce que si je m'occupe des âmes, si je leur apporte du bien, eh bien je m'occupe en même temps des intérêts de Jésus-Christ. Encore la dernière expression de Corinthiens, de Corinthiens 12. Et c'est une expression vraiment qui est très belle. Au milieu du verset 14 du chapitre 12, l'apôtre dit « Je ne cherche pas vos biens, je ne suis pas intéressé par votre argent, par vos biens, mais ce qui m'intéresse, c'est vous-même. » L'intérêt de l'apôtre, c'était les saints à Corinthe. Sa sollicitude, bien sûr, c'était pour toutes les assemblées, mais il avait à cœur vous-même, les saints, dans l'assemblée de Corinthe. Je ne cherche pas vos biens, mais vous-même, je cherche votre bien. Est-ce que nous avons à cœur le bien des âmes ? Est-ce que nous sommes animés de ce désir de servir Christ, mais de servir les saints pour servir Christ? Et si nous servons les saints, à travers les saints, nous servons les intérêts de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes toujours prêts à nous engager pour faire du bien à notre frère et à notre sœur qui est en difficulté? Est-ce que nous arrêtons toute activité et toute affaire cessante, eh bien, est-ce que nous nous mettons en route pour le bien de nos frères et de nos sœurs ?
Lisons juste le verset que nous venons de chanter dans le cantique tout à l'heure, dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Nous avons rappelé ce matin à quel moule a emmené l'amour du Seigneur sur la croix, abandonné de son Père, de notre Dieu. Voilà le défi qui est devant nous.
Dans Philippiens 2, verset 3 au milieu, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas ce qui est à lui, mais chacun aussi ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Nous connaissons la suite.